Bonjour Raymond Richard au micro, eh bien nous nous retrouvons avec Michel Bourgès-Monoury pour l'émission Bienvenue en Europe. Et chers auditeurs, eh bien nous sommes heureux de vous retrouver pour parler de l'Europe. Alors depuis notre dernière émission, eh bien le président Macron, qui était chargé de la coordination européenne, va bientôt sortir de ce mandat européen et retrouver seulement son mandat français. Quelquefois, j'ai trouvé que c'était ambigu, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Ce jeu sur deux tableaux.
Ben c'est à la fois un moyen pour un pays et pour les citoyens de ce pays de se sentir directement concerné par ce qui se passe en Europe. Et c'est pour ça que ça a été créé ce besoin de faire des présidences tournantes qui durent 6 mois.
Sauf que là, il y a eu la guerre.
Et sauf que là, évidemment, il y a eu un contexte...
Entre le Covid et la guerre.
Un contexte vraiment inattendu et plutôt que délicat. La présidence suivante sera celle de la Tchéquie. Donc pour les Tchèques, eh bien, ce sera l'occasion à la fois de participer directement à l'agenda européen et aussi d'aider à sa programmation, mais aussi de participer en tant que citoyen tchèque concrètement à l'Europe qui est, on fait partie tous de ce continent.
C'est intéressant parce que c'est un pays d'Europe de l'Est, de l'ex-Europe de l'Est.
Exactement. Et là, c'est quand même intéressant, spécialement dans le contexte actuel. Mais on va peut-être y revenir lors de notre... Donc cette présidence française, il y a eu un agenda avec un certain nombre d'objectifs. Mais comme on l'avait déjà dit lors d'une réunion précédente, ce n'est pas la France et le président Macron qui tout d'un coup dictent qu'on va faire ça, ça, ça et ça.
Ça se construit dans le long terme
et ça doit se programmer par rapport justement à tout ce qui a été retenu auparavant sur beaucoup plus que les 6 mois dans lesquels on se trouve. Mais chaque pays a quand même son mot à dire pour essayer de pousser plus ou moins tel ou tel projet qui était dans l'agenda. Donc c'est pour ça que c'est important.
C'est vrai que la Convention pour l'avenir de l'Europe, du coup, ça, on ne l'a pas aussi bien entendu qu'on aurait pu l'entendre.
Oui, mais ça, c'est à cause du contexte international qui a un peu caché justement cet aspect des choses. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage et très peu de médias en ont parlé. Ça a duré un an, hein, du 9 mai 2020 au 9 mai 2021 au 9 mai 2022. Et pendant cette année, bon, on en a déjà parlé, mais il y a eu une consultation citoyenne absolument inédite.
150 000 personnes quand même qui ont répondu.
Ce qui, par rapport au continent, je trouve ça personnellement très peu.
Mais
ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui en est sorti. Et ce qui en est sorti, c'est d'autant plus intéressant qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tirées au sort. Donc il y a eu des assemblées qui ont été réunies à cet égard, sans parler du fait que les parlements nationaux, le Parlement européen et toute une série d'organismes para-institutionnels ou autres. Donc il y a eu un grand nombre de structures qui ont été consultées pour faire des projets. Qu'est-ce que l'Europe de demain doit être et qu'est-ce qui ne va pas à l'heure actuelle. Donc il faudra sans doute tenir le moment venu faire le point
sur les résultats de ces consultations.
Mes résultats traduits dans les faits, parce que maintenant la discussion est ouverte. La balle est dans le camp des gouvernements qui doivent essayer de faire un projet. Alors le Parlement européen pousse très fort derrière en disant qu'il faut lancer une nouvelle convention comme à l'époque de Giscard d'Estaing pour changer les traités et créer quelque chose de neuf, en tout cas de plus ambitieux. Et peut-être que indirectement, alors on ne peut pas rentrer dans les détails à ce sujet, de toute façon ça serait trop tôt par rapport au calendrier, mais ce qui est intéressant de souligner, c'est que précisément ce contexte international, c'est-à-dire pour être tout à fait direct, l'invasion par la Russie de l'Ukraine a créé un tel choc et aussi avec des conséquences déjà que l'on ressent tous les jours, non seulement en Ukraine bien sûr, mais aussi au plan international et évidemment au niveau européen puisqu'on est en première ligne. Donc ça a modifié complètement les attitudes dans l'Union européenne. Les 27 finalement se sont restés unis, même si à la marge
Sont plutôt resserrées, y compris avec la Grande-Bretagne d'ailleurs.
Exactement. Donc il y a quand même quelque chose d'important à souligner à cet égard. Et ça fait depuis une trentaine d'années, on n'a jamais vu l'Europe se ressaisir à ce point-là. Donc il y a un côté positif par rapport à cette grande menace.
Donc, alors, parlons quand même de ces aspects positifs. Le Danemark qui était quand même réticent un peu sur la pointe des pieds. Là, vraiment,
alors le Danemark, le 1er juin, avait organisé un référendum et pour 67% de ses participants, ils ont dit oui à rejoindre la politique européenne de sécurité et de défense.
Oui, alors que le Danemark était quand même un des pays les plus frileux au point qu'il avait gardé sa monnaie, par exemple.
Ils avaient obtenu d'être en retrait du traité de Maastricht sur cet aspect-là des choses. De même, comme vous l'avez souligné, sur la politique monétaire. Et face justement à ce qui se passe à nos frontières en Ukraine, eh bien, les Danois, qui ont été toujours très frileux par rapport aux avancées de l'Union européenne et à son intégration, ils étaient plutôt sur la ligne de la Grande-Bretagne. Donc ils étaient pour un marché commun, libre-échange.
Mais pour le reste, on...
Et là, ils voient tout d'un coup que, pas loin de chez eux, bah, comme nous, il y a un drame qui se produit et qu'on est tous en danger, indirectement. Donc ils se sont dit, là, on peut plus, il faut aller de l'avant, on va rejoindre l'Europe. Et il y a aussi une chose que l'on ne sait pas toujours en ce qui concerne l'Union européenne, c'est que dans le cadre de cette politique européenne de défense, il y a un article qui dit très clairement que en cas d'attaque d'un des États ou qui est en difficulté au niveau, eh bien les autres sont solidaires. Donc c'est un peu comme l'OTAN. C'est un peu comme le traité de l'OTAN. Donc on est tous solidaires les uns des autres au niveau de la défense. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et on pense indirectement à ce qui se passe avec la Finlande, avec la Suède, qui ont demandé à rejoindre l'OTAN. Bien, du fait de leur appartenance à l'Union européenne et à cette dimension de la défense européenne, eh bien, on est tous garants et solidaires les uns des autres. C'est cette solidarité-là qui est mise en avant.
J'avoue, du côté de l'OTAN, je me dis quand même, avant que le Canada ou les États-Unis interviennent, enfin bon, ils sont toujours intervenus dans l'histoire, mais quand même, c'est loin. Alors que la solidarité européenne, il me semble que... moi, j'avoue que j'ai trouvé intéressant aussi que les pays d'Europe de l'Est ne soient pas aussi unanimes contre l'Europe de l'Ouest, par exemple.
Oui, tout à fait. La Pologne... là, indirectement, on a pu se rendre compte des conséquences de cette invasion russe à nos portes, et qui ici menace d'aller du côté des pays baltes. Il y a qui faisaient partie de l'ancien empire russe, soviétique, etc. Donc il y a des menaces qui sont vraiment réelles. Si on écoute ce que disent les politiciens russes, à commencer par M. Poutine, c'est particulièrement préoccupant. On se disait, on ne va pas rentrer dans une analyse historique. Moi, néanmoins,
il n'y
a pas de leçon de l'histoire, et c'est ça qui est vraiment
triste. C'est très difficile aussi de faire la part des choses, parce que c'est vrai que la situation des pays d'Europe de l'Est, de la Finlande, Et puis tout simplement parce qu'il y a eu le traité germano-soviétique au début de la guerre.
Si on pourrait refaire des analyses de ce qui s'est passé, il y a beaucoup de points communs. Ça devrait servir de leçon justement pour ne pas recommencer les erreurs du passé. Malheureusement, apparemment, c'est jamais le cas. Alors en tout cas, en ce qui concerne cette politique de sécurité et de défense commune, il y a des moyens d'abord... financiers, il y a plusieurs milliards d'euros qui sont alloués à cette politique, il y a des organes de coordination, il y a toute une série de choses qui sont prévues précisément pour essayer de faire en sorte que notre continent puisse mettre en route le plus vite possible, compte tenu de la situation actuelle, les outils à la fois pour développer des instruments de défense, Et donc là, il y a toute une série d'actions qui sont en cours d'être lancées sur le plan de l'armement militaire. Et puis, il y a également, sur le plan de l'aide à l'Ukraine, toute une série de choses qui sont faites. D'abord, des livraisons d'armes. Et puis aussi, du côté de l'Ukraine, et ça, c'est le Conseil européen, le dernier Conseil européen de fin mai et début juin, qui a mis son accord pour de nouvelles sanctions contre la Russie. Mais toutes ces sanctions contre la Russie, on le sait bien, ça aura des conséquences sur le long terme. Sur le court terme, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, sur le côté, on parlait du Danemark, côté de l'Europe de la défense, là, c'est à nouveau, c'est l'Union qui se renforce encore davantage.
Ah, ça, c'est quand même dommage que ce soit tout cet argent alloué pour la guerre. Je trouve que ça aurait été tellement mieux si on l'avait alloué pour l'Europe sociale, par exemple, ou l'Europe culturelle.
Enfin, tout à fait.
On ne peut pas... voilà, c'est comme ça.
Maintenant, on regrette que, précisément, le pourcentage du PIB, qui devrait être de 2%, comme d'ailleurs le traité sur l'Atlantique Nord, l'OTAN, le prévoit, c'est que 2% du PIB national de chaque État membre doit être consacré à la défense.
Au budget.
Et au niveau de l'Union européenne, eh bien, très peu de pays ont respecté cette dimension-là, et si bien qu'on a un retard assez important en ce qui concerne l'armement de l'Europe et de notre défense. Donc il y a vraiment le besoin de rattraper le temps perdu. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc espérons qu'on va arriver à rattraper précisément ce temps perdu et bâtir quelque chose qui permette de vraiment renforcer l'Europe à tous les points de vue. Alors, indirectement,
surtout,
avec ce...
Pour l'armement, surtout qu'on ne l'utilise pas.
Ben oui, ça, on est bien d'accord. Mais malheureusement, en politique et en géopolitique, on a été peut-être un peu naïfs dans nos analyses autrefois, enfin jusqu'à ces derniers temps, de croire que, par exemple, avec une approche internationale, les échanges entre continents commerciaux, etc., allaient faire en sorte qu'on n'allait plus se retrouver dans les précédents historiques où là, c'était la confrontation directe. Et donc là, malheureusement, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Et on se trouve, en ce qui concerne l'Union européenne, en difficulté quand même, malgré ce besoin maintenant, tout d'un coup, on se dit « mais l'Union fait la force, il faut donc s'unir plus que jamais ». Les sanctions que l'on met sur le dos de la Russie, à juste raison, mettent en avant aussi, révèlent notre propre faiblesse, en particulier en ce qui concerne l'énergie.
Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Le problème est quand même de l'énergie, puisque finalement... Même si on fait des sanctions, on paie tous les jours beaucoup d'argent pour l'énergie qui nous vient de la Russie.
Alors cette énergie vis-à-vis de la Russie, donc il y a eu un accord qui a été fait en ce qui concerne le charbon.
Le charbon, oui.
Toute importation charbon terminée avec la Russie.
Mais enfin, les armes d'aujourd'hui, c'est le pétrole,
le gaz. Après... Il y a le gaz. On a discuté, il y a eu pas mal de réunions à ce sujet entre les 27 et au niveau du Parlement européen. Et il y a ce projet préparé par la Commission européenne de dire, eh bien, à la fin de l'année, on va stopper une grande partie de l'approvisionnement de gaz russe. Mais on ne va pas tout à fait le couper totalement parce que...
Il y a des pays qui en dépendent totalement.
En ce qui concerne maintenant ce qui était dans le pipeline du dernier Conseil européen, concernait le pétrole. Parce que là aussi, il y a une grande dépendance, pas égale, ça dépend des pays à l'intérieur de l'Union européenne, mais qui est quand même relativement importante pour certains, concernant l'approvisionnement en pétrole. Et là, en ce qui concerne le pétrole, cela faisait partie des sanctions. Donc la Commission a prévu pour la fin de l'année d'arrêter totalement l'approvisionnement de pétrole russe. Il y a un problème qui s'est produit au niveau du Conseil européen, c'est que la Hongrie en dépend énormément de ce pétrole qui arrive par gazoduc, pas par pipeline, et elle a un tarif très préférentiel accordé par M. Poutine à M. Viktor Orban. Et donc il y a eu un chantage de M. Orban qui a tout fait pour empêcher cette sanction sur le pétrole russe. Et puis à force de négocier, M. Orban a obtenu à 2h du matin, je crois, la dernière nuit du Conseil européen, d'avoir une exception hongroise. Ce qui fait que là, il n'y a pas un vrai front uni au niveau européen. Donc M. Orban aura le droit de s'approvisionner comme avant, en attendant que son économie se modifie pour de plus en plus ne plus être dépendant de ce pétrole-là. Pour le reste du continent, avec quelques autres pays qui sont également, comme la Hongrie, très dépendants, on leur donne cette autorisation de continuer un peu avec l'arrivée du pétrole. Mais tout le reste, c'est stoppé. Ça va être stoppé à la fin de l'année, terminé.
Oui, mais enfin,
Alors, parallèlement, il y a eu des sanctions contre certaines banques russes, à nouveau, et puis contre quelques oligarques. Mais là aussi, en ce qui concerne les oligarques, je crois qu'on en avait touché un mot la dernière fois, lors de notre dernière réunion, de dire qu'il y a en particulier le grand patriarche russe orthodoxe, qui est en fait le pape du
le
monde
pape
orthodoxe du côté russe, qui est en fait un oligarque. Il est milliardaire, il est pro-Poutine, il est pour la guerre contre les méchants ukrainiens, qui, soi-disant, quand ils ne sont pas nazis, ben, ils sont pas chrétiens. Et donc, la Commission européenne avait fait la liste de tous les oligarques qu'il fallait encore punir, et il y avait son nom dans le listing. Et M. Orban, comme par hasard, s'y est opposé. Comme il faut l'unanimité, il a été exclu de cette condamnation au niveau européen. Bon. Au niveau symbolique, c'est évidemment assez catastrophique. Alors que M. Orban fasse des sourires à M. Poutine, plus ou moins, selon que cela l'arrange, c'est une chose, mais que M. Orban, qui par ailleurs a complètement détourné de sa propre constitution certains principes des droits fondamentaux pour lesquels la Hongrie avait donné son accord en rejoignant l'Union européenne, eh bien, ça fait qu'on commence à voir cela un peu d'un mauvais œil au niveau européen. Beaucoup sont complètement offusqués par l'attitude de la Hongrie. Et le seul côté actuel qui est un peu amusant entre guillemets, c'est que la Pologne et la Hongrie, qui étaient les deux pays qui ne respectaient pas depuis quelque temps les droits fondamentaux, l'état de droit européen, notamment en matière de justice, ça qui est le plus important, et également du côté de la représentation libre des médias dans ces pays. Il y a beaucoup de choses qui ne respectent pas les états de droit. Des mesures ont été prises, lancées au niveau de la Commission européenne pour empêcher, refaire redresser le tir dans ces deux pays. Et on a bloqué les financements du fameux plan de relance européen à la Pologne et à la Hongrie. Justement pour leur dire, si vous ne faites pas ce qu'il faut, on ne vous donnera pas l'argent.
Or, comme il se trouve que le côté
intéressant dans l'attitude actuelle de la Russie, c'est que la Pologne, elle, a une attitude tout à fait différente vis-à-vis des Russes. Au contraire, eux, c'est l'ennemi intégral, à 100%. Donc, ils se désolidarisent de la Hongrie. Donc, il y a une scission entre cette dimension souverainiste
De la Pologne.
Des démocraties illibérales, ou comme on dit, enfin en tout cas oui. Des États qui ne respectent pas tout à fait la démocratie en plein. Et donc c'est le côté un peu, dirons-nous, positif de l'affaire, c'est qu'il n'y a plus un front de ce que l'on appelait la partie
de Visegrad, des pays d'Europe de l'Est.
Donc voilà. Mais les choses sont toujours pas claires, parce que en ce qui concerne la Pologne, eh bien, la Commission européenne, justement, voyant tout ce que la Pologne fait actuellement pour défendre l'Ukraine,
pour accueillir les Ukrainiens,
accueillir notamment les réfugiés ukrainiens, oui. Plusieurs millions, n'oublions pas, c'est quand même extraordinairement
important. Oui, parce que nous,
important.
Quand on en a 100 000, on dit beaucoup, mais...
Bon. Et là, il y a une solidarité qui s'est faite. La Pologne s'est levée comme un seul homme pour défendre les Ukrainiens. Et ils ont évidemment des besoins considérables de financiers pour faire face à cette affaire. Et la Commission européenne, voyant tout cela, a obtenu, avec des fortes négociations avec le gouvernement polonais actuel, d'ouvrir une brèche dans les dispositions qui avaient été prises par les Polonais contre l'état de droit, et notamment vis-à-vis
des
juges polonais qui avaient été évincés, mis au chômage et écartés parce qu'ils avaient l'air d'être trop pro-européens et pas assez nationalistes à la manière de Varsovie, du gouvernement actuel. Donc là, il y a eu des négociations et le gouvernement polonais a ouvert la porte pour dire « Eh bien, on va remplacer la chambre actuelle qui s'occupe de la... » Je ne sais plus le nom de cette chambre. De toute façon, en polonais, je ne pourrais pas vous le dire. La chambre disciplinaire. Voilà, c'est la chambre disciplinaire qui se permet de juger les juges. Et donc, ils vont créer un nouvel organe. Alors, c'est la porte ouverte. Et donc, ils vont essayer de démanteler tout ce qui avait été fait. Mais au niveau du Parlement européen, très récemment, il y a eu un hurlement en disant « mais non, on veut des vrais faits et pas simplement des promesses ».
Et on veut que promesses. La Pologne s'aligne sur l'état de droit.
Exactement.
Qui est la loi commune des
Alors,
pays de l'Europe.
La Commission européenne a dit « d'accord, nous, on va débloquer l'argent du plan de relance ». Ça représente quand même 35 milliards et demi d'euros, 35,4 milliards exactement. Pour la Pologne, ce qui est considérable par rapport au budget polonais. La présidente de la Commission européenne, von der Leyen, a bien dit devant le Parlement, a répété qu'il n'était pas question de verser quoi que ce soit si il n'y avait pas une garantie que la Pologne allait faire ce qu'elle avait indiqué en négociation qu'elle allait faire. Donc il s'agit de conditionner le premier versement et elle doit prouver, la Pologne doit prouver d'ici la fin de 2023 que tous les juges licenciés illégalement ont été réintégrés, a bien souligné Madame von der Leyen. Donc on va voir comment tout ceci avance. Mais en tout cas, bon, il y a une ouverture compte tenu aussi de ce qui se passe à la fin.
C'est vrai que cet aspect-là nous paraît intéressant. C'est qu'en fait, bon, ce changement politique a amené les gens à revoir un peu leur position. Mais il reste que sur le fond, quand même, on est un peu effrayé de voir que des pays de grande culture, et l'Europe occidentale, la Russie, enfin, quand on regarde la culture russe, la musique russe, enfin... on retombe dans la barbarie la plus épouvantable et on revient aux guerres comme si...
Ah oui, comme si on était au siècle dernier.
Au temps des 1 et des je sais pas quoi.
Ou même plusieurs siècles en arrière, comme si l'histoire était un éternel recommencement, en tout cas les mauvais côtés.
Et puis en tout cas, il y a aussi le problème de l'orthodoxie. Moi, j'avoue que je suis... Enfin, nous sommes sur une radio chrétienne, l'Évangile qui... Enfin, je sais pas... Dans Fratelli Tutti, c'est très clair, et dans les textes de l'Église catholique, en tout cas, la guerre, elle est mise définitivement hors la loi. Il n'y a plus de guerre juste. Et là,
je dirais même qu'en ajoutant que même au-delà de ce que peuvent dire les catholiques et les orthodoxes, oui, il suffit de relire les Évangiles.
Mais oui.
Là, ils sont au moins là au moins c'est clair.
Oui, là au moins c'est clair.
C'est
mais
pas interprété. C'est pas interprété par une religion. Et si on se dit chrétien et qu'on lit les évangiles, on est sidéré de voir que, eh bien, telle ou telle branche se met à interpréter d'une curieuse façon. Et là, c'est dramatique. Là, c'est absolument invraisemblable. Enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez ? C'est le monde actuel, mais c'est sur notre radio, on peut être vraiment choqué par cette attitude. En ce qui concerne, je fais un dernier mot avec les pays de l'Europe de l'Est parce que la présidence tournante de l'Union européenne, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être la Tchéquie qui va prendre la succession de la France. Et la Tchéquie faisait partie de ces pays qui étaient assez réticents et plutôt du côté des Polonais et des Hongrois vis-à-vis de l'intégration européenne en disant « bon, il ne faut pas que Bruxelles se mêle
de
trop de choses ».
Ça pose la question de l'Europe à plusieurs vitesses. Ce serait bien d'en parler, effectivement.
Mais le côté, j'en finis avec la Tchéquie, c'est que la Tchéquie qui va prendre la présidence, eh bien, elle vient de dire que non, elle n'est pas d'accord avec la Hongrie et donc elle se raccroche au reste. Donc, voilà. Alors, en ce qui concerne la dimension...
De l'ensemble des pays qui se mettent d'accord sur un plan financier ou sur un plan, sur tel ou tel plan. Et notamment, je crois que le président Macron avait évoqué la possibilité de réunir les pays qui avaient envie d'avancer politiquement ensemble. Et bon, ça a été présenté comme étant une innovation, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui, me semblait-il... Alors, existait déjà.
Depuis Robert Schuman et Jean Monnet, ils ont toujours dit que c'est l'idéal, ce sera une fédération un peu comme les États-Unis d'Europe. Les États-Unis d'Amérique, il y aurait les États-Unis d'Europe. Alors, il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites dans le passé. Jacques Delors a aussi lancé l'idée
donc, un certain nombre de commissaires européens.
C'est faire une Europe à deux vitesses. Et par rapport à la situation de l'Ukraine, parce que l'Ukraine réclame son raccrochement, son rattachement à l'Union européenne, ce que, évidemment, on ne peut pas. Si elle le demande, eh bien, il y a de bonnes raisons actuellement pour essayer de l'aider et d'activer cette approche-là. Mais il y a des règles. Et pour essayer d'avancer le plus vite possible, la France, par la voix de M. Macron, a proposé de créer, aux côtés de l'Union européenne ou dans l'Union européenne, une communauté politique européenne qui, elle, intégrerait tous les pays qui peuvent être candidats ou même pas candidats, même éventuellement le Royaume-Uni qui pourrait se raccrocher à ces dimensions-là, qui ferait en sorte que c'est un marché commun qui serait à négocier, évidemment, pour voir sur le plan économique des règles, etc.
Un marché commun politique.
Politique. Mais, et donc, c'est une manière d'essayer d'avancer de l'avant et que l'Europe fasse partie d'un tout, donc avec deux vitesses, un noyau plus dur, central, qui serait évidemment autour des premiers pays du Benelux, et puis, en tout cas, surtout notamment la France et l'Allemagne, et puis ensuite, le reste qui voudrait bien se mettre autour. Mais ce serait également, pour le continent européen, une force vis-à-vis, eh bien, particulièrement, de la Russie actuelle, qui verrait que face à ses portes, elle a voulu s'en prendre directement, attaquer un voisin qu'elle considère pas comme un voisin, mais comme son propre territoire. Et comme elle prétend de vouloir même l'étendre du côté des pays baltes et ailleurs, on crée une organisation qui, elle, fait front et unit notre propre continent.
Eh bien voilà, ça va être le mot de la fin. En tout cas, on s'aperçoit qu'en période de crise, finalement, on s'aperçoit que c'est peut-être intéressant de s'entendre avec ses voisins. C'est ça l'Europe aussi, pour finir. Donc, chers auditeurs, à vous de découvrir la suite. Et puis, on aura le plaisir de vous retrouver à la rentrée pour de nouvelles émissions sur l'Europe. Et en attendant, suivez bien cette actualité européenne et vive l'Europe! Bonne semaine à tous, au revoir.